Radio Germaine.
Popcorn, l'émission pour savourer le cinéma.
Saison 15.
Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 18 de Popcorn sucré. Moi c'est Alix et je suis avec Arthur.
Bonsoir.
Avec Léna.
Bonsoir.
Et avec Juliette.
Bonsoir.
Et je vous propose de commencer directement avec nos chroniques de la semaine. Et Juliette, vas-y, je t'en prie.
Et bien nous, avec Arthur, on va vous parler de Nous les Leroy, qui est donc un film qui est sorti le 10 avril, réalisé par Florent Bernard, aussi connu sous le nom de Flaubert, puisque c'est un ancien du collectif Golden Moustache, si comme moi, vous avez grandi avec YouTube à cette période-là. Maintenant, les jeunes sont trop petits pour connaître, mais voilà.
Déjà, tu dis les jeunes.
Voilà, c'est ça. J'aurais pu dire les jeunes, même. Mais... mais donc, dans ce film, on va suivre... Il s'appelle comment le personnage principal ? Ouais, José Garça. Dans ce film, on va suivre un personnage interprété par José Garcia qui va se faire quitter. Enfin, en gros, sa femme, interprétée par Charlotte Gainsbourg, va lui dire que elle pense qu'elle n'est plus amoureuse de lui. Et donc, veut s'en aller. Ils ont deux enfants qui sont des grands ados. Il y en a un qui va partir de la maison. Et donc, le personnage de José Garcia ne veut pas se faire quitter. Désolée, ce résumé est vraiment beaucoup trop long. Je sais très mal résumer les films. Bref, et en fait, il va se dire qu'il va organiser un week-end de la dernière chance où il va emmener du coup sa femme et ses deux enfants en week-end pour retracer un peu l'histoire de cette famille-là, essayer de reconquérir sa femme pour qu'elle ne parte pas. Voilà. Après ce très mauvais résumé, je te propose de me dire ce que t'en as pensé, Arthur.
Moi, j'en sors... plutôt, ça m'a plutôt plu, j'ai plutôt passé un bon moment devant ce film-là. Un premier truc à noter, et c'est cool que ça évolue dans ce sens-là, c'est ça n'a pas été marketé, et ça n'est d'ailleurs pas, et ça ne se voit pas, comme un film de YouTuber. Alors que pourtant, on a quand même Florent Bernard, Flaubert, qui est du coup un pilier quand même de la culture Internet YouTube des années 2010, qu'il fait jouer dedans pas mal de ses potes qui sont aussi connus de Golden Moustache ou de toute cette sphère-là. Et pourtant, ce n'est pas un film de YouTuber. Et même si on le précise là, parce que voilà, nous, on connaît Florent Bernard par ça, que c'est son premier long-métrage qu'il réalise, c'est cool à noter que ça se veut être un... entre guillemets, je déteste dire ça, mais un vrai film de cinéma, et que c'est cool qu'on n'ait plus ces espèces d'objets hyper hybrides qui sortaient il y a 3-4 années, on mettait une figure d'Internet devant ou derrière la caméra.
Après, t'avais le film de Palmachot qui était...
Oui, mais Palmachot, c'est différent, parce qu'ils ont aussi été connus par la télévision, tu vois.
T'as une ambivalence. C'est quand même des figures de YouTube.
Et c'est resté pendant très longtemps, des exceptions.
Oui.
Si tu veux, tu peux regarder un bon truc si vous voulez faire les
le film de Norman.
Oui.
J'ai eu un flashback.
Mais non.
C'était
jamais vu
ça. Ok. Truc incroyable de 2012. Genre vraiment, c'est le fin fond du turfu de 2012. C'était avec Norman Tavo qui allait au cinéma. Le film a marqué, mais sur
Maurice Barthélémy.
Réalisé par Maurice Barthélémy, mais genre mec.
Une parodie de Paranormal Activity. Voilà.
Bref. Donc, désolée. Longue digression pour me dire déjà qu'il y avait ça qui était de bien. Et deuxième chose que j'ai bien aimé, c'est la capacité que Florent Bernard a à mêler, je trouve, le tragique et l'humour qui peut un peu décondenser. Au début, l'écriture de Florent Bernard est assez particulière et il y a 20 premières minutes qui, en effet, moi, m'ont dérangé, voire même un peu plus, peut-être les 30-35 premières minutes, où le ton étant très bizarre. Marchant surtout sur un humour qui est un humour de la gêne, un humour du silence, un humour des phrases ratées, qui peut être dur en fait au début. Et puis finalement, petit à petit, on rentre et il y a une scène incroyable dans un restaurant où José Garcia et Charlotte Gainsbourg en viennent à vouloir s'étriper les uns les autres, avec Adrien Méniel qui fait un caméo, et Adrien Méniel est vraiment une des personnes les plus drôles d'Internet. Ce qui fait que d'un coup, je dis « Ah ok, je comprends le ton du film, je comprends ce qu'il
ça,
veut... »
Ça, c'est aux trois quarts du film. Hein.
Non, mais c'est au premier tiers et c'est parce que c'est une mauvaise foi.
Non.
Et moi, je ne me permettrai pas de te couper, donc ne le fais pas demain. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait « Ah ok, le ton du film va être sur ça. » Et d'un coup, moi, ça m'a beaucoup plu. Un problème à voir avec le film, c'est que Florent Bernard est un très bon scénariste, un très... très bon dialoguiste, ce n'est pas un bon réalisateur, enfin en fait c'est un réalisateur qui a une réalisation purement comment j'appelle le mot ?
Fonctionnel.
Voilà, purement fonctionnel, qui ne sort pas du lot. Je trouve une photographie qui n'est pas très belle, mais un sens du tempo comique, du montage, de la petite vanne qui marche très très bien. Ce qui peut un peu décontenancer aussi, c'est que ce sont des comédiens dont on n'a pas l'habitude qui déclament ce genre de dialogue. Je pense notamment à Charlotte Gainsbourg qui a un rôle qui pourrait lui convenir et que finalement il y a peut-être un ton un petit peu en dessous et encore ça dépend des scènes. Bizarrement, Joseph Garcia s'en sort vraiment très bien. Et que j'ai trouvé, je trouve d'ailleurs que c'est le personnage le plus intéressant, et pour un troisième dernier point, après je laisserai la parole à Juliette, c'est l'écriture du personnage de José Garcia. Dans ces films où on a un couple qui se déchire et que l'un veut essayer de recoller les morceaux, déjà souvent c'est l'homme qui fait ça, et en plus il a ce côté où il se donne le bon rôle, alors que finalement insister pour que deux anciens amoureux restent dans une situation, c'est quand même un comportement assez toxique. Et le film, sans faire de José Garcia un monstre, et lutte pas du tout en fait cet aspect toxique en fait de vouloir rester dans une relation qui marche pas, et montre tous les travers qu'il peut avoir, et même sans en éluder certains, c'est-à-dire que José Garcia est capable parfois de faire une preuve d'une certaine violence tout en montrant que c'est problématique, sans non plus avoir un film qui serait très
dénonciateur.
Ouais, très dénonciateur pour la raison en fait. S'il dit mais voilà, là il fait une connerie et il faut qu'il accepte que ce couple parte, et là-dessus je trouvais que c'était un très très bon film. Il manque, et je pense que c'est un problème de premier film, il manque 2-3 films narratifs pour que ça fonctionne bien. Je trouve qu'il y a 2-3 histoires qui sont rushées. On sentait que le réalisateur voulait faire un film, voulait faire un peu le dernier jour du reste de ta vie en version XXL, et qu'il n'avait pas les moyens. Et malgré ça, moi, c'est un film dont je suis ressorti avec plein de petites bonnes vannes qui m'ont bien plu. Et je crois que Juliette, toi, t'es un peu plus négative là-dessus.
Oui, je suis plus négative, mais en fait, je crois que c'est parce que moi, j'avais beaucoup entendu parler du film sur les réseaux, etc. Puis j'en attendais beaucoup parce que Florent Bernard, donc c'est Flaubert sur YouTube, mais récemment, il a notamment scénarisé d'autres films avant. Il a aidé à scénariser La Flamme, et récemment, il a co-scénarisé Vermine aussi. Il a participé au scénario de Vermine, qui pour moi était vraiment une des grandes surprises de l'année. Était vraiment vraiment exceptionnel, allez, disons-le bon. Non, mais je trouve que vraiment c'était vraiment très réussi, donc j'en attendais beaucoup de ce film là il a gagné un prix au Zark Film Festival, je crois, je sais plus, bref, Festival de Montagne, soit les Arcs, soit l'autre ville de
Alpes d'Huez.
Soit l'Alpe d'Huez, je ne sais plus lequel, voilà, vous irez chercher, mais bon, bref, là n'est pas la question. Et même sur les réseaux, parce que je suis toujours des gens qui sont sur YouTube, etc. Plus Florent Bernard, il est aussi connu par le Floodcast, je ne sais pas comment on dit. Okay. Bref, qui est assez populaire, je crois. Je n'écoute pas parce que je suis une vieille, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez populaire. Bref, donc j'en attendais beaucoup. Et en fait, moi je suis complètement d'accord avec toi, en fait, Arthur. Je pense que le film est vraiment extrêmement bien scénarisé, extrêmement bien écrit. Les dialogues sont d'une gêne, et en même temps d'un drôle. Enfin, c'est vraiment, pour le coup, je trouve ça vraiment, vraiment bien fait, et ça m'a vraiment séduite. C'est ce qui fait que je suis quand même rentrée dans le film, et en même temps je trouve que ça pêche vraiment aux côtés de la réalisation, que ce soit au niveau du mouvement de la caméra, enfin c'est juste au-delà d'être c'est même pas fonctionnel parce que c'est juste descriptif, enfin c'est illustratif, enfin je sais pas, j'ai l'impression que, enfin c'est de voir une comédie avec Christian Clavier dedans, enfin on est à ce stade, enfin tu vois, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a pas d'idée, la photo est très laide, et surtout je trouve qu'il a quand même un problème au niveau de la direction d'acteur, je pense. Le jeu sonnait quand même faux, surtout au niveau des enfants qui, pour le coup, sont un peu moins bien écrits. Le personnage de Charlotte Gainsbourg et de José Garcia, je te rejoins sur ce point-là, le personnage de José Garcia est très très bien écrit parce que on le regarde toujours avec bienveillance, même si avec honnêteté. On voit en fait que, enfin, on comprend que Charlotte Gainsbourg, elle veuille t'en aller en fait. Et en même temps, elle n'est pas montrée comme la méchante du tout. Loin de là, lui, bah, du coup c'est plus ambivalent, mais en même temps il y a quand même c'est un peu un loser, donc t'es obligé, enfin moi j'aime bien ces trucs de loser là, donc t'es quand même obligé de l'aimer un peu, il est attendrissant, et en même temps tu vois qu'il déconne complètement en fait. Donc je sais pas, moi je trouve que ça c'est vraiment, c'est bien écrit. Il n'en reste pas moins que je trouve qu'il y a un problème de tempo. Le montage, c'est un peu comme monter comme une vidéo YouTube, en fait. Je trouve il y a des cuts un peu, mais ça me dérange pas nécessairement, mais vas-y.
Non mais après tu peux pas demander à un mec qui vient de YouTube de
mais c'est pas nécessaire. Le problème de rythme pour moi vient pas du niveau du montage. Je parlais juste du montage comme ça parce que, bon, bref, ça fait pas sens dans mon argumentation, mais toujours est-il que je parlais du montage qui, pour le coup, voilà, je trouve, est quand même plutôt original. Pour le coup, il y a une certaine patte au niveau du montage parce que vidéo YouTube aussi un peu très cutée, voilà, très dynamique. Moi, je trouve qu'il y a un problème au niveau du tragicomique, en fait. Je trouve que les scènes comiques sont très drôles, mais que le tragique, enfin ce qui est censé faire être triste, marche pas. Enfin, en fait, c'est bizarre parce que le comique est très drôle, très gênant, etc. Enfin, ça marche bien, encore une fois, tous ces gens venus de YouTube, ils marchent bien. Moi, ça faisait aussi tout simplement plaisir de les voir. Et ces espèces de caméos-là et tout, c'est bien construit. Les moments tristes sont quand même tristes, etc. Je pense que j'ai lâché ma petite larme, etc. Mais je trouve que le mélange des deux va pas ensemble. J'ai l'impression qu'il manque une certaine unité un certain équilibre dans le mélange, ce qui fait, enfin moi j'aime beaucoup ces comédies qui mêlent en fait un peu drame et un peu comédie, on pourrait dire tragicomique, je sais pas, bon bref, ce que vous voulez, mais je trouve que là il y a une unité qui se fait pas, en fait des petites séquences dans le film marchent bien, mais j'ai l'impression que dans sa globalité, il manque une certaine unité, même au niveau de l'écriture du coup des personnages, des enfants, je trouve qu'ils pour le coup se ressentent pas très bien, alors que il y a, de ce que j'ai entendu, il y a quand même une certaine visée autobiographique, c'est-à-dire que Flaubert se représente un peu lui-même, lui et sa sœur sûrement, enfin ou ses frères et sœurs dans les personnages des enfants, puisqu'il raconte son histoire, ses parents sont vraiment... On ne sait pas s'ils se sont séparés ou pas avant qu'ils partent à la fac. Tu pourras couper au montage si tu trouves que c'est trop spoilé. Et bref, mais je trouve que ouais, il lance des ficelles à des moments qu'il rattrape pas. Et je vais m'arrêter là, mais du coup, je trouve que le film est bien. Et en fait, ça m'énerve parce qu'il aurait, enfin, j'aurais aimé l'aimer encore plus. Et du coup, ça m'a un peu déçue. Et dernier point, j'aimerais qu'on arrête de donner le rôle de dépressive à Charlotte Gainsbourg. Ouais. J'en ai marre de cette mère qui pleure tout le temps et qui crie et tout. Enfin, je sais, vu, revenant, mais j'ai l'impression d'avoir vu partout. Enfin, c'était le même dans le film horrible de Yvan Attal qui s'appelle Chien, mon chien, je sais plus, un titre avec chien. Bah, c'était insupportable. Et une mauvaise. Enfin,
on sait pas. De la nuit.
Les passagers de la nuit, elle est re, bah, c'est mieux, mais elle est re, un peu mère dépressive. Enfin, j'aimerais qu'on change. Et la représentation d'un espèce de burn-out, et je trouve pas très crédible. Parce qu'à un moment, on sent qu'elle est vraiment à bout, etc. À son travail, elle peut pas s'empêcher de pleurer, etc. Mais par contre, pendant le week-end, elle a de l'énergie à foison, etc. Et ça me semble pas très réaliste. Voilà.
Ben, merci pour ce débat animé. C'était très constructif. Mais oui, je sais pas si ça m'a convaincu d'aller voir le film. Franchement, Charlotte Gainsbourg et tout. C'est vu et revu, je trouve. Enfin, bon. Léna, si tu veux continuer pour ta chronique de la semaine.
Bien sûr. Moi, parce que je suis l'incarnation de la flemme et du manque de temps, j'ai regardé un film sur les plateformes. Parce que bah, voilà, c'est chez moi, alors que le ciné n'est pas chez moi. Et que je peux faire pause. Mais du coup, j'ai regardé Les filles d'Alpha, de la réalisatrice. Vous pardonnerez tout du long de cette chronique la prononciation, parce que moi, mon truc, c'est l'espagnol. Donc, de Kauter Ben-Anya, qui est donc une réalisatrice tunisienne. Et Les filles d'Alpha est un film qui a eu sa première l'année dernière à Cannes, donc en 2023, et qui a remporté le César du meilleur film documentaire en 2024. Donc, Les filles d'Alpha, de quoi ça parle? Ça parle d'Alpha, une mère tunisienne, de classe populaire, voire qui ne roule clairement pas sur l'or, qui a 4 filles. Sauf que un jour, ces 2 filles aînées, en fait, tombent dans une spirale de radicalisation et vont partir en Libye s'engager auprès de Daesh. Et c'est en fait une histoire vraie. C'est cette femme, Olfa, que l'on voit apparaître dans le film pour jouer son propre rôle, a vraiment eu ces 2 filles aînées qui se sont radicalisées et qui sont parties, en fait, qui sont aujourd'hui en prison. Donc elle a vraiment ces 2 filles aînées qui sont parties en prison et elle s'est retrouvée avec les 2 petites. Et du coup, ce deuil que l'on voit tout du long du film. Parce que ce film, j'ai dit tout à l'heure qu'il avait eu le César du meilleur documentaire. C'est ça, en fait. C'est un documentaire. Olfa joue son propre rôle. Les 2 filles les plus jeunes d'Olfa jouent leur propre rôle. Mais c'est aussi un film. Parce que la réalisatrice va faire intervenir 2 actrices pour jouer le rôle des sœurs, donc à travers ces 2 actrices qui, en plus, d'après les dires des filles et de la mère, leur ressemblent. Elle va faire intervenir d'autres acteurs pour jouer le rôle des hommes qui les ont violentées, qui les ont traumatisées. Donc on est vraiment, en fait, devant un être hybride qui est en fait un film sur le documentaire qui aurait dû voir le jour. On plonge en fait dans des scènes qui sont scénarisées parce que les filles et Olfa rejouent, tout en nous racontant en fait ce qu'elles ont vécu, rejouent à certains moments des scènes, mais donc avec des acteurs, et ce sont des scènes scénarisées. Et puis il y a des moments qui sont vraiment pris hors champ, qu'on entend ou alors qu'on voit parce que la caméra se tourne et qu'on n'aurait jamais dû voir, qui aurait dû vraiment rester dans les limbes de ce documentaire, qui ne sont pas du tout objectives et qui sont vraiment mises en beauté carrément par la photographie, par la musique. Donc on a vraiment une sensation de voyeurisme, dans le sens où on a une histoire extrêmement dure, où on voit le traumatisme en fait de ces trois femmes et à travers elles des deux sœurs qui sont aujourd'hui en prison. On revit en fait tout ce qui a mené à ce moment où Olfa s'est retrouvée sans ses filles. Mais en même temps, on voit cette première histoire, mais on revoit leur histoire parce qu'on les voit revivre face caméra, en fait. On les voit revivre ce traumatisme, on les voit essayer de le process, pardonnez mon anglicisme, à tel point qu'on ne sait plus ce qui est scripté, ce qui est réel. On est vraiment voilà, dans une position de voyeur. Et je n'emploie pas ce nom dans le sens négatif. Ce n'est pas « Ah, bah dis donc, elle nous a montré des trucs qu'elle n'aurait pas dû nous montrer », mais c'est que nous-mêmes, on est pris, en fait, dans cette... dans cette bulle avec Olfa et ses filles, où on a plusieurs fils narratifs qui se croisent. Celui de la radicalisation de ses filles, celui de la réalisation du documentaire, celui de elle au temps présent où elle joue le documentaire, comment est-ce que, en fait, elles sont encore en train de se pardonner, de se disputer, comment est-ce qu'elles sont en train d'apprendre à vivre avec toutes ces émotions. Donc on a ce mélange de temps qui se croise et qui nous font voir des facettes fantasmées et réelles des personnages, ou plutôt des personnes, et qui donc, voilà, cette chronique est un peu décousue, mais c'est parce que le film en lui-même, en confondant fiction et réalité, nous invite dans un monde qui est le nôtre sans être le nôtre, nous plonge vraiment dans l'émotionnel et par ce biais contourne l'objectivité qui est censée être celle du documentaire. Tout ça pour dire que je conseille.
Moi, c'était juste pour poser une question, parce que alors, moi, j'avais vu le film et j'en avais senti bizarrement la même chose que toi, c'est-à-dire cette position de voyeur. Et moi, pour le coup, je le mettrais plutôt dans un point de vue négatif, parce que j'avais été très dérangé au fait de voir cette famille-là à qui on fait revivre un traumatisme. Est-ce que toi, tu l'as ressenti comme ça ou pas? Est-ce que tu t'es dit, mince, attends, mais c'est horrible, elles revivent ça? Ou est-ce que tu penses qu'au contraire, ça m'était nécessaire
Je pense un mélange des deux. C'est vrai que c'est dérangeant en fait de voir ces personnes qui s'effondrent en larmes à l'écran, ces moments de douleur vraiment profonde qui ressurgissent. Et tu sens qu'il y a des trucs, tu sens que tu vois des scènes de famille, du linge sale que tu ne devrais pas voir. Parce qu'elles sont là, elles se sourient, mais en même temps, bah, elles s'en veulent encore et t'es pas censé. Elles n'étaient pas censées te montrer ça dans un documentaire bien propre. Mais en même temps, les filles restantes elles-mêmes disent. On avait besoin de ce film. Genre, cette scène, je l'ai déjà rejouée, et encore et encore avec mon psychologue. C'est bon, je suis passée outre. Mais ça, en fait, vous le ressemblez tellement. Et on voit, en fait, Olfa, qui est quand même un personnage, elle est extrêmement conservatrice. Elle est assez contre la religion, bah, surtout quand on a vu ce que ça fait à ses filles. Mais en même temps, ses filles, si elles embrassent un homme avant le mariage, elle les bat. Genre, vraiment. Et on la voit se faire questionner par les actrices et par l'équipe du film de « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et elle-même commençait parfois à se poser des questions. Donc je pense, mais là je psychanalyse complètement, Je pense que Olfa et ses filles, les réelles, avaient besoin de ce film. Et que nous, sans le côté voyeur un peu pervers qu'on aime bien, on n'aurait peut-être pas eu... Ou nous, je parle de la communauté qui regarde les films en général, on aurait peut-être pas eu le même intérêt pour le film, parce que c'est ça qui fait que c'est pas juste un documentaire comme les autres. Je sais pas si ouais, toi non. C'est...
Moi j'étais sorti avec plein de questions de ce film là en fait, et puis quand j'avais vu les réactions qui avaient été très polarisées, moi j'avais été presque choqué du film en fait, et en même temps je comprenais tout l'intérêt qu'il a, et de dire est-ce qu'en cinéma, est-ce que moi j'avais presque un sentiment que le film était immoral à faire revivre des traumatismes. Mais c'est toute la question, est-ce que le cinéma a le droit d'être immoral s'il pense que ce qu'il a à montrer est plus important que la moralité dont il fait preuve? Je pense que c'est un objet hyper intéressant. Oui.
Et je pense que la question de justement la moralité, elle vient aussi du libre arbitre de Olfa et de ses deux filles qui ont joué là-dedans. Oui. Dans le sens où elles l'ont dit au cours du film qu'elles étaient contentes de le faire. Et moi, j'aime assumer que si elles avaient voulu ne pas aller jusqu'au bout, elle ne l'aurait pas fait. Mais après, voilà, je ne connais pas ces personnes-là personnellement, je ne connais pas les mécanismes du tournage. Mais je me dis, la moralité, elle vient peut-être de leur consentement et du fait que c'est une façon pour elles, en plus, de montrer leur histoire, de montrer ce qui leur est arrivé et de plaider à la fin du film pour pouvoir revoir leur sœur, leur fille.
En tout cas, ça a l'air hyper percutant. Enfin, franchement, ça pose plein de questions. Mais oui, j'étais à Cannes l'année dernière et il y avait eu plein de projections et on en avait beaucoup, beaucoup parlé, je crois. Donc, il faudrait peut-être que je le regarde quand même.
Disponible sur Canal+. Canal+, si vous voulez nous sponsoriser, on ne dit pas non.
Toujours. Non, bah écoutez, je vais peut-être passer à ma chronique. Moi, j'ai regardé Laroy. Where the fuck is Laroy? Donc qui est sorti cette semaine, qui a été réalisé par Shane Atkinson et qui est une sorte de thriller comique, policier, mais comique américain et pour lequel je suis assez mitigée. Il y a quand même des bons points et en même temps, bon, il y a quelques failles, c'est pas le film de l'année, mais bon, c'est quand même agréable. En gros, on suit l'histoire de Ray qui est un employé exploité et on retrouve la figure du loser dans ce film-là. Et encore une fois, on retrouve un leitmotiv puisqu'il a été lui aussi trompé par sa femme. Et il a découvert donc cette super nouvelle grâce au talent d'un ancien pote qui a été reconverti un peu en apprenti détective privé. Donc on retrouve des personnages principaux qui sont bien des losers. Et en fait, le truc, c'est que alors qu'il se préparait à en fait mettre fin à ses jours sur un parking, bah, y a un mec qui débarque dans sa voiture en pensant qu'il parle avec le tueur qu'il a engagé pour en fait buter un avocat avec qui il n'était pas d'accord, machin. Donc en fait, Ray, il va se retrouver dans une avalanche de problèmes, de magouilles, des quiproquos, des pièges, des tromperies, des personnages qui sortent de nulle part, et le tout en étant poursuivi par donc le véritable tueur à gages du début, quoi. Donc le film, il reprend les codes de la Murder Party, du film à couteau tiré, glace oignon, du Cluedo, enfin... moi j'aime bien ce genre de film. Enfin, il y a des rebondissements, il y a des personnages qui sont extravagants, on joue vraiment sur le côté loufoque, burlesque, presque ridicule et idiot des personnages, donc c'est assez cool. Il y a des bons retournements de situation auxquels on s'attend vraiment jamais. Et la surprise du film, c'est qu'il y a une super photographie. Enfin, il y a des super images du Texas profond. Donc en plus, le décor se prête vachement bien au concept de la murder party, parce qu'on finit toujours par recroiser la même personne tellement c'est vide en fait. Donc oui, il y a vraiment des super couleurs, les néons des bars, les phares des voitures vintage, la couleur un petit peu désertique, etc. Enfin, j'étais assez surprise de quand même des bons plans. D'un autre côté, le film il est quand même assez long, c'est presque 2 heures, donc ça passe en fait, c'est pas Dune non plus, mais il y a quand même pas mal de scènes de dialogue qui sont hyper étirées, et finalement il y a peu d'action, alors que c'est quand même un film qui peut s'apparenter à un peu un film d'action. Après, je l'ai vu à presque 22 heures, donc peut-être que ça s'explique, mais j'ai trouvé ça quand même assez long. Il y a, niveau bande-son, il y a toujours le même morceau de country qui se rejoue en boucle. Et, j'en pouvais plus à la fin. Ça suffit. Et puis juste, je vais vraiment créer une pétition contre les films qui s'arrêtent avec un cut bidon, en fait, vraiment qui n'ont pas de fin. Parce que pendant tout le film, on voit des personnages qui... Enfin, Ray, il est dépressif au début, il veut se buter. Et puis finalement, il a des buts, il a des amis, il a des objectifs à atteindre. Puis finalement, on les voit pas atteindre leur but, donc... je trouve ça un petit peu bête. Donc voilà, c'est un film qui est cool parce que j'ai quand même bien rigolé. C'est un film à la Murder Party et tout. Donc c'est assez quand même agréable à regarder. Mais bon, je suis un peu mitigée. Il mérite peut-être pas tous les honneurs. Donc voilà. C'était nos chroniques de la semaine. On peut commencer avec nos coups de cœur ou coups de gueule de la semaine. Je sais pas si Juliette, tu veux commencer.
Oui, tout à fait. Alors moi, ça va être un coup de cœur assez simple. Je pense que vous l'avez vu passer, mais c'était mon message. Si jamais vous faites partie des 2 personnes qui n'ont pas regardé cette série, c'est Samuel qui est dispo sur Arte. Donc c'est une série qui est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube d'Arte, sur le compte Instagram. Je crois qu'il y a des... Mais regardez-la sur YouTube parce que c'est plus... c'est un format normal. Donc Instagram, vous le verrez en tout petit, c'est un peu dommage. Mais donc, si vous n'avez pas encore entendu parler de cette série, on suit... en fait, c'est une série donc animée de très courts épisodes. C'est 100 minutes les épisodes. Il y a à peu près une vingtaine d'épisodes, de ce que je me souviens. Réalisé par, il me semble, Émilie Tronchon. Mais je sais pas, j'ai pas pu regarder, j'ai pas de connexion. J'ai essayé de toutes mes forces de trouver le nom de la réalisatrice. C'est une réalisatrice. Mais donc, de mémoire, c'est Émilie Tronchon. Mais bon. peut-être que l'avenir me détrompera. Je suis vraiment très fatiguée aujourd'hui, je prends 5 ans pour tout dire, excusez-moi. Mais donc on suit, en fait on est comme dans un journal intime d'un pré-adolescent, il est en CM2 et à la fin il est en 6e, qui s'appelle Samuel. Donc c'est animé, et il va animer un peu ce qu'il met dans son journal intime. Donc la principale intrigue, c'est que lui, il est amoureux d'une fille de sa classe qui s'appelle la Grande Julie. Et en fait, c'est juste extrêmement doux, comme un espèce de petit cocon qui te ramène un peu en enfance. Enfin, en enfance, du coup, préadolescence. Cette période un peu bizarre où tu sais pas très bien et où... Et c'est tout doux, et en même temps, tu vois que c'est pas une période qui est non plus très facile. Et je trouve ça très bien fait, en fait. Ouais, t'as vraiment l'impression d'y être. Et aussi, je trouve surtout l'animation est particulière, pardon, parce que c'est que du noir et blanc, il me semble, et c'était très très fin, mais je trouve que ça marche super bien. En fait, notamment les mouvements, parce qu'il y a souvent des scènes où ils dansent, etc. Et je trouve que les mouvements sont vraiment super bien retranscrits, et il y a des trucs où c'est en fait super inventif, parce que du coup, ça se permet, c'est de l'animation, donc ça se permet des fois d'être pas réaliste, d'avoir des certains mouvements et tout. Je trouve que vraiment, il y a un truc où on est plongé dedans, et ouais, niveau artistique, ça m'a aussi... Enfin, artistique, niveau visuel, en tout cas, ça m'a vraiment... je trouvais que c'était super réussi, et j'avais pas beaucoup vu de trucs comme ça, et même si ça paraît simple, en fait, il y a vachement une recherche, et j'adore même les manières de dessiner et tout, enfin, voilà. C'était un gros coup de cœur pour moi, si jamais il pleut encore ce week-end à Paris, ou je sais pas, ou juste vous... Voilà, regardez Samuel, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, et c'est vraiment trop mignon.
Ouais, non, bah, je l'avais vu passer, et en effet, je comprends le délire artistique et tout, ça c'est hyper mignon, et ça a l'air trop chou, vraiment, il faut que je regarde ça.
Oui.
Léna, si tu veux continuer avec ton coup de cœur
Moi, ça sera pas un coup de cœur, ça sera un coup de gueule. Moi, je vais vous parler de, du coup, Shogun, la série qui est sur Disney+. Alors moi, il faut savoir que je suis un peu bisounours, hein. Et j'ai vu que là, la série, elle était à partir de 16 ans, je me suis dit, bon, ça va vite fait s'insulter, il va y avoir une scène de cul ou deux, peut-être ouais. Un mort ou deux, et ça passe. Et en fait, non. Absolument pas. J'ai regardé que les 20 premières minutes, parce que je spoile pas, parce que ça arrive dans les 20 premières minutes de l'épisode, mais quand tu mets un mec à bouillir vivant jusqu'à ce que mort s'en suive dans une casserole, moi je suis désolée, je regarde ça à 21h, je vais me coucher après, ben, je dors pas quoi. Du coup, mais j'ai l'impression qu'il y a je vois passer un peu partout sur les réseaux, dans les stories des gens, dans les stories de pas beaucoup de gens, mais quand même, j'en entends parler autour de moi. Et je suis désolée, mais d'où tu commences une série et avec une scène ? Parce qu'en plus, elle est longue, la scène. Genre, elle est vraiment assez graphique, surtout auditivement. Et juste, bah, je suis désolée, ça, c'est pas 16+, c'est 18+. Si t'es pas une chochotte comme moi, faut prévenir. Et je comprends pas la fascination qu'on a aujourd'hui. Peut-être que ça fait très vieux de ma part, hein, ça fait très boomer. Mais la fascination qu'on a aujourd'hui pour les séries Bonjour Game of Thrones, où tout le monde finit découpé et meurt dans les pires souffrances inimaginables. Non, elle est passée où la douceur et la tendresse? Ou juste, il est passé où le... Tu vois l'épée qui s'approche de la personne et fade to black. C'était très bien ça. Du coup voilà, moi c'était mon coup de gueule. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans une course au gore et Burke. Et bah, du coup, ça me fait faire des cauchemars moi. Donc voilà.
Oui, non, mais je peux comprendre ton sentiment, ma pauvre. Bah, Arthur, si tu veux continuer.
Par contre, juste Alix qui dit qu'elle peut comprendre mon consentement alors qu'elle s'est tapé un festival de films d'horreur l'année dernière.
On va essayer d'y retourner d'ailleurs, quand même. Bah,
voilà, donc on n'est pas sur les mêmes niveaux de sensibilité.
Mais justement, je me mets à ta place, je comprends, ma pauvre. Je comprends. Merci. T'étais pas prête psychologiquement. Mais du coup, Arthur, vas-y, s'il te plaît.
Bon, moi, ce sera positif et ce sera certifié sans violence. Moi, je sais pas pourquoi je suis tombé dans un vortex aller regarder des trucs que fait le SNL, donc le Saturday Night Live. Alors, d'autres, vraiment quelques trucs que j'ai vu passer sur YouTube et tout ça, mais qui m'ont bien fait marrer. Je me suis dit, tiens, je vais les résumer, notamment les raps de Natalie Portman. En fait, il y a un moment où genre ils ont invité Natalie Portman, et Natalie Portman qui avait et qui a encore toujours aujourd'hui cette image d'actrice extrêmement propre sur elle, qui se met d'un coup à rapper et à dire des conneries. C'est vraiment extrêmement drôle. Un autre où c'est Pedro Pascal qui va jouer Mario. Dans une reprise, dans un croisement entre Mario et The Last of Us, qui me fait beaucoup marrer aussi. Et puis là, dernièrement, Ryan Gosling qui s'est invité sur le SNL. Enfin bref, que des petits trucs marrants. Je vous conseille d'aller voir le humour SNL qui est vraiment marrant. Je vois que ça imite du I'm Just Ken.
I'm Just Ken.
Where's he love? She sees a friend. Désolée, je l'ai eu dans la tête tout l'été.
Oui, oui, bah là, tu viens de me le remettre.
Mais moi, tu vois, je l'ai eu dans la tête à cause des Oscars. Là, je me réveille avec ça tous les matins. Je suis là, ah, putain, je suis un homme. I'm just scam. Bref.
You are enough.
Soft power revient en force, j'ai envie de dire, techniquement parlant. Et non, voilà, donc là, les deux, trois petits sketchs de SNL, je vous les conseille. Sur Nathalie Portman, moi, j'ai découvert du coup ces sketchs-là. Avec la vidéo qui a été faite par la cinéaste, pardon, la journaliste cinéma Judith Beauvallet, qui est boss à Écran Large, qui a fait du coup des portraits d'actrices. Il en a fait un sur Nathalie Portman, un autre sur comment elle s'appelle, celle qui joue dans Stranger Things, la maman.
Millie Bobby Brown ou...
Non, la maman.
Winona Ryder.
Winona Ryder. Qui a fait du coup des portraits d'actrices, un sur Jenny. Un sur. Winona Ryder et du coup un sur Nathalie Portman, qui sont deux portraits hyper intéressants que je vous recommande. Voilà.
Ok, super. Ben écoutez, moi je vais continuer sur un coup de cœur, mais pas n'importe lequel, c'est vraiment le coup de cœur ultime. Ça fait plusieurs semaines que j'ai pas eu un coup de cœur comme ça. C'est une série d'animation Netflix qui s'appelle Carole et la fin du monde, qui est signée par Dan Gutterman et qui est sortie en 2023, donc ça commence à dater un petit peu. Moi, j'étais passée un peu à côté, j'avais vu la miniature et je m'étais dit, oh, bah, c'est cool, mais j'avais peur que ce soit un petit peu la même chose que toutes les séries comiques d'animation sur Netflix, qui sont un petit peu toutes les mêmes. Je les kiffe, je les regarde tous, mais malgré tout, je ne m'attendais pas à vraiment une innovation particulière. Et là, pour le coup, c'est une dinguerie, en fait. Carole, la fin du monde, c'est une série qui nous propose du coup d'imaginer nos vies à quelques mois de la fin du monde. En fait, on nous explique pas du tout comment ça se fait que la fin du monde elle arrive. On sait pas comment ça va se passer et même comment juste les gens l'ont appris. On s'attarde vraiment juste sur comment les humains ils vivent leurs derniers mois de vie sur Terre, en fait. Et dans ce contexte-là, bah, la réaction en fait saine ou un peu normale, ce serait juste d'avoir peur de rater sa vie, de savoir si on a vraiment tout bien fait, tout accompli. Et bah surtout aujourd'hui dans une société où le développement personnel ça règne, l'obligation d'être heureux, d'avoir un but dans sa vie bien précis, d'être la meilleure version de soi-même, d'accomplir toujours plein de choses, de faire des rencontres, de voyager partout dans le monde, bah on est obligé de faire les comptes à un moment pour savoir si vraiment on va bientôt mourir, il faut savoir si on a bien tout fait quoi. Et au lieu de sauter en parachute, de partir en voyage à l'autre bout du monde, Carole, l'héroïne célibataire, dépressive de 42 ans, bah elle se réfugie dans la routine d'employée de bureau de comptabilité. Et en fait, la série entière, elle va se centrer autour de ces employés de bureau qui fuient la réalité pour se réconforter dans un job totalement impersonnel et qui sert plus à rien, puisque la comptabilité, à quelques mois de la fin du monde, l'argent, ça sert plus à rien, quoi. Et donc, en fait, on va explorer toute la vie personnelle, familiale, amoureuse de ces gens qui sont profondément blessés et qui essaient de trouver un refuge, en fait. Donc voilà, c'est assez fort. On s'inspire un petit peu du style graphique des séries d'animation, style Cartoon Network, même des séries Netflix un peu pour enfants, avec des formes et des lignes qui sont très épurées, très cartoonesques, pour finalement, en fait, s'en affranchir et les dépasser pour aboutir à un style qui est beaucoup plus mature, beaucoup plus travaillé, et poétique, et même parfois, à certains moments, psychédélique. En fait, je trouve que ça traduit hyper bien d'une façon extrêmement intelligente, juste l'évolution des personnages qui mûrissent, qui deviennent des meilleures versions d'elles-mêmes, qui cicatrisent leur trauma sans passer par les chemins tout tracés traditionnels. Donc je trouvais ça hyper intéressant. Et si la série, l'histoire en elle-même, elle se déroule à quelques mois de la fin du monde, elle fait évidemment écho à nos vies aujourd'hui. Déjà parce que l'urgence climatique fera qu'un jour ou l'autre, la fin du monde aura bien lieu. Et simplement aussi parce qu'on finira tous par mourir un jour. Voilà, je suis désolée de vous l'apprendre. Spoiler. Donc voilà, en fait, les questions existentielles de savoir si on a tout bien fait, si on a vraiment vécu la meilleure vie qu'on allait avoir, qu'on a été la meilleure version de nous-mêmes, elles vont finir par se poser ces questions-là à un moment donné. Donc voilà, je trouve cette série très belle et en même temps très dure à regarder parce qu'on se met beaucoup en question. On se pose les fameuses questions de si tout ce qu'on est en train de faire, ça a vraiment un sens ou pas. Moi, je me suis dit, mais si je meurs demain, est-ce que je serais heureuse de la vie que j'ai accomplie ? Est-ce que j'aurais vraiment tout fait ce que je voulais, etc. Donc voilà, c'est vraiment un bijou d'animation américaine pour adultes et vraiment un coup de cœur absolu. Allez regarder Carole à la fin du monde. Alors, c'était vraiment pas hyper... une note pour conclure hyper fun,
bah, on mais... parle de conclusion, mais...
voilà, voilà, c'est tout. Non, bah écoutez, si vous avez rien d'autre à rajouter, c'était l'épisode 18 de Popcorn Sucré. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Et puis, à très bientôt. Salut.
Salut.